les podcasts de l'Institut Balanites.
Bonjour et bienvenue, je suis Romain Mudrac et vous écoutez un podcast proposé par l'Institut Balanites dont le but est la promotion des recherches scientifiques liées à la Grande Muraille Verte. Avec Didier Moreau, délégué général de l'Institut Balanites et nos invités, nous allons aborder dans cette émission les enjeux environnementaux et socio-économiques en matière de gestion de l'eau dans le Sahel. Cette eau indispensable à de nombreuses activités dans la région. Nous allons évoquer des solutions qui existent et le projet de plateforme de recherche en cours de création à l'université de N'Djamena au Tchad. Pour en parler, nous avons autour de la table Makay Taïso, professeur à l'université de N'Djamena au Tchad, Gora Diop, expert sénégalais de la Grande Muraille Verte, et enfin Joël Barrault, conseiller scientifique pour de nombreuses structures, ancien président de Valagro et directeur de recherche CNRS. Didier.
Merci à tous d'être présents pour cette discussion qui devrait permettre à nos auditeurs d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce projet de Grande Muraille Verte et d'une problématique qui paraît un peu décalée, qui est celle de la ressource en eau. Alors effectivement, pour redire les choses, l'Institut Balanites a pour rôle d'essayer de piocher dans ce réseau international de chercheurs quelles sont les pistes de réflexion, les recherches concrètes de terrain, mais également, et avec notre ami Gora Diop, voir comment la mise en application de ces préconisations peuvent être faites dans un esprit d'ouverture, de relation avec les populations locales, car la question de l'eau, c'est une question qui intéresse toutes et tous. Donc l'important pour nous, c'est que ces contributions permettent de voir dans quelle direction la Grande Muraille Verte peut orienter ses projets de recherche. La carte de l'Institut Balanites pour les prochaines années en Afrique, c'est de pouvoir tester entre l'Éthiopie, le Tchad et le Sénégal, différentes pistes de recherche, mais d'interrelier ces pistes dans une discussion permanente. Et dernier point, que le travail, et Makay Taïso va nous en parler, le travail fait par chacune des plateformes de recherche puisse bénéficier aux 10 autres pays de ce tracé de la Grande Muraille Verte. En faire bénéficier ces 10 autres pays, c'est aussi permettre, dans la discussion internationale que nous menons déjà depuis 5 ans, de pouvoir aussi échanger avec des acteurs de la recherche européens, français, parce que, encore une fois, la Grande Muraille Verte a des leçons à nous apporter et les pistes de travail doivent nous permettre d'avancer collectivement sur ces éléments.
On va commencer par rappeler les enjeux en termes de gestion de l'eau dans le Sahel. En commençant par le Tchad avec Makay Taïso, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, dresser un peu le paysage des besoins en termes d'eau et puis nous parler aussi de cette plateforme sur laquelle vous travaillez avec votre laboratoire qui s'intéresse justement à la gestion de l'eau.
Merci. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des panélistes ici autour de la table. Je voudrais donc rappeler que Monsieur Didier, vous parliez tantôt de la question de la Grande Muraille Verte. Qui dit Grande Muraille Verte dit couvert végétal. Qui dit couvert végétal dit nécessairement la présence de l'eau. Parce que sans eau, on ne peut pas parler de couvert végétal. Donc l'eau est indispensable et elle occupe une place importante dans la politique de la question de la réforestation de cette zone-là. Donc au Tchad, comme pays faisant partie des 11 pays sur le tracé de la Grande Muraille Verte, nous sommes plus concernés, disons, par la question de l'avancée du désert. Et donc l'importance de cette politique de mettre une barrière à cette avancée du désert nous préoccupe à plus d'un titre. Et donc, la question de l'eau, quand l'association Balanites a lancé cet appel d'offres, nous étions très intéressés et nous avons répondu à cet appel d'offres. Et c'est ainsi que j'ai demandé aux collègues chercheurs tchadiens qui travaillent dans le domaine de l'eau et du sol, et leur réponse a été immédiate. Ce qui aussitôt nous a permis de mettre en place cette plateforme et de pouvoir travailler donc sur la question de l'eau et sur la question du sol. C'est une contribution que le Tchad pourra apporter à cette question de l'eau qui est quand même assez importante pour l'ensemble des 11 pays. Et donc le Tchad va s'occuper de ce thème de manière particulière. Et nous avons les labos de l'eau qui existent dans certaines de nos universités partenaires, puisque nous avons l'université de N'Djamena et l'université de Mungo, qui sont les deux universités partenaires en ce moment. Et donc à l'université de N'Djamena, nous avons un laboratoire de l'eau. à l'université de Mongo, pas encore, mais nous avons des géologues, des hydrogéologues qui travaillent aussi sur la question. Et donc nous pensons qu'en mettant ensemble nos compétences, on pourra trouver des réponses aux questions que tout le monde se pose sur la présence ou non de l'eau dans certaines nappes. Parce qu'il faut dire que nous avons au pays, au Tchad, et bien évidemment sur le tracé de la Grande Muraille, quelques endroits où nous avons des socles. Vous savez que la recherche de l'eau, la nappe dans les socles est un peu délicate. Il va falloir donc, pour cela, avoir certaines connaissances de cette recherche de l'eau dans ces régions à socle. Et donc là aussi, nous avons une expertise au niveau local. Nous avons des thèses qui sont en cours, des thèses qui ont été soutenues, qui sont intéressées sur cette question de la recherche de l'eau ou des forages positifs dans des endroits de socle. Donc nous pensons que cette expérience pourrait être mise à contribution pour permettre de répondre aux questions de l'eau que tout le monde se pose et dont tout le monde est intéressé pour pouvoir rendre possible toutes les missions et toutes les actions de la Grande Muraille Verte.
Il y a un mot-clé, puisque à chaque fois que je présente la Grande Muraille Verte et qu'on parle d'eau,
oui,
c'est la question des nappes.
Absolument.
Donc je voulais savoir quelle est l'expertise, même si beaucoup de choses restent à faire, quelle est l'expertise actuelle sur les avantages, les inconvénients, quelles précautions faut-il prendre et quelle est la nature de cette eau? Peut-être en commençant par ça, c'est une eau fossile?
Mais nous avons des eaux fossiles. Et nous avons des eaux donc qui se chargent au gré des saisons de pluie. Nous avons, par exemple, nous avons des lacs, le lac Tchad, vous voyez le lac d'Unianga, qui sont des lacs qui ont des eaux fossiles, qui sont alimentées essentiellement par les eaux fossiles. Vous savez, quand vous prenez le lac Unianga, dans cette zone, il ne pleut presque pas. Ou s'il pleut, c'est une ou deux pluies par an, mais le lac reste toujours plein. Vous avez donc cette eau fossile-là qui est utilisée.
Et cette eau fossile, elle est saline?
Ben, elle n'est pas saline, l'eau fossile, mais elle tombe dans un bassin dans lequel elle se transforme. Et donc le bassin, il est salé et donc l'eau devient saline lorsqu'elle est dans le bassin.
D'accord.
C'est pourquoi lorsqu'on va dans les lacs Unianga, par exemple, on peut se laver dans cette eau, se baigner dans cette eau saline, en flottant bien évidemment, puisqu'on on flotte dans cette eau. Et lorsqu'on veut se nettoyer, on va au bord pour recueillir l'eau fossile, qui permet donc de se rincer et de pouvoir sortir sans sel.
Gora Diop, vous êtes sénégalais, on sait qu'il y a un projet de parcelle expérimentale qui est mené là-bas. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu ce projet de parcelle et plus particulièrement le volet dédié à la gestion de l'eau?
Merci beaucoup. C'est encore un plaisir de participer à ce panel d'experts et de pairs, donc qui nous permet de réfléchir sur une problématique majeure qui est liée à l'eau. Même si, parce que la problématique, elle est mondiale, avant d'être sahélienne, mais plus avancée au niveau du Sahel, surtout dans la zone de la Grande Muraille Verte. Parce que si on définit la zone de la Grande Muraille Verte comme étant une zone comprise entre les œillettes 200 et 400, ça veut dire que c'est des zones où on reçoit annuellement 200 mm de pluie par an ou 400 mm. Ce qui veut dire que la Grande Muraille Verte, je vais être affirmatif, ne se fera pas sans que la barrière de l'eau soit levée. Parce qu'on parle de restauration, on parle de plantation. Et maintenant, comment faire pour faire la GMV en levant cette barrière qui demande beaucoup plus de moyens, qui des fois dépasse même les États, à plus forte raison une agence ou un projet, parce que c'est un problème qui est macro. Si je me limite au contexte du Sénégal, qui est valable même au Tchad, au Niger, au Burkina, il y a un problème d'accessibilité à l'eau, mais il y a un problème de gouvernance de l'eau. L'accessibilité au niveau du Sénégal, ça permet d'apporter une contribution à la question des DJ. Au Sénégal, c'est au niveau des maestriciens qui se trouve entre 150 et 200 mètres de profondeur. Donc, sortir de l'eau à 150-200 mètres, je crois, demande des moyens conséquents. Même si, par ailleurs, on sait que la réserve peut être importante. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est l'accès. Mais l'autre problème, même si on arrive à extraire de l'eau, quelle est la gouvernance de l'eau? Si moi, ce qui m'intéresse, c'est de restaurer, de planter, Makai, ce qui l'intéresse, c'est d'abreuver son bétail, dédier ce qui lui intéresse, c'est d'avoir de l'eau alimentaire, et il sait, nous savons, qu'il n'y a aucune quantité dans cette gouvernance qui est destinée à la restauration.
Non.
Donc c'est d'abord, je prends un exemple très souvent dans un village très connu au Sénégal, ou du Tchongoli, les forages fonctionnent de 6h du matin à 16h pour abreuver le bétail, de 16h à 18h pour l'alimentation humaine et de 0 seconde pour la restauration, dans la planification de l'utilisation. Donc ce qui nous amène aujourd'hui à voir que c'est essentiel. Si on veut restaurer, il faut donc nous qu'on maîtrise l'eau. Et je crois bien que partant de nos expériences, ça y est là, c'est ce qui a amené l'idée aujourd'hui de ces parcelles expérimentales. Quel est le meilleur rapport coût-bénéfice qu'on peut avoir pour restaurer le Sahel? Parce que planter une plante, c'est un être vivant qui a besoin de respirer, de manger, de boire, qu'on le veuille ou pas, comme nous, être vivant. Maintenant, quelle est la... Parce qu'aujourd'hui, dans la restauration, on a trois modes qu'on utilise. Soit on plante, soit on ensemence, soit on fait une mise en défaut. On laisse à la nature faire et on protège. Mais tout en sachant qu'on a besoin de l'eau. Donc le travail que nous sommes en train de faire et qui sera expérimenté dans ces parcelles, c'est quel type de stratégie de travail du sol devons-nous faire pour maximiser, retenir le maximum possible d'eau. Ce qui fait que dans les blocs que nous avons proposés, il y a des traitements. Un traitement avec un sous-solage simple, un traitement avec un sous-solage croisé, un traitement avec un simple triazon. Parce que tout ça, c'est de voir comment retenir l'eau au profit de la plante. Tout en sachant que vous êtes sous un contexte de 40 à 48 degrés à l'ombre. Donc le taux d'évaporation est très, très, très élevé. Donc, mais je crois bien qu'avec ces parcelles, peut-être au bout de 5 ans, si on me repose la même question, je peux te dire, je préfère telle stratégie qui m'a permis de pouvoir minimiser le pot d'eau que j'ai eu et j'ai amélioré le taux de couverture de tant pour cent et avec un coût de revient de tant d'euros ou de tant de francs CFA et qui sera un résultat de recherche qui pourra être valorisé, n'est-ce pas, et utilisé dans le développement de la mise en œuvre de la GMV.
Joël Barraud, vous êtes expert en chimie verte. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, la situation au Sahel, d'après ce que vous avez entendu là? Et puis, vous portez vous-même un projet autour de la rétention d'eau, on peut dire ça comme ça. Que pouvez-vous nous en dire un peu et quels pourraient être un peu les enjeux sur la Grande Muraille Verte?
Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est important de parler de la Grande Muraille Verte. Pour moi, c'est un exemple mondial de ce qu'on pourrait faire ailleurs que dans la Grande Muraille, en Europe, à commencer par l'Europe, pour l'agriculture, la culture des plantes et l'exploitation des plantes. Alors, j'ai essayé de vous résumer en 3 minutes 20 ans de travaux de recherche, ce qui est un exercice que j'aime bien. Donc, je m'intéresse depuis plus de 20 ans, d'ailleurs plus de 30-40 ans, à l'utilisation de ce qu'on appelle du carbone renouvelable à la place du carbone fossile. Donc, je m'intéresse à la production des plantes, pour avoir des molécules plateformes, les molécules plateformes, ensuite pour les utiliser pour faire d'autres choses. Mais on part du principe d'avoir une agriculture dédiée pour obtenir une molécule plateforme, pour faire de la chimie ou pour faire tout ce que vous voulez, de la santé, comme ça. Bon. Donc, c'est pour ça que je pense que le modèle de la Grande Muraille Verte est un modèle qui peut être transposé dans beaucoup de pays et qui doit être transposé. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est les histoires d'eau, sans faire de jeu de mots d'ailleurs. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, on travaille sur la synthèse de polymères pour l'absorption d'eau. Pour des applications, en premier lieu, c'était la cosmétique, l'hygiène corporelle comme priorité. Ça veut dire qu'on est impliqué, nous sommes toujours impliqués dans la synthèse de matériaux qui vont absorber de grandes quantités d'eau. Quand je dis de grandes quantités d'eau, les plus performants de ces matériaux peuvent absorber 1000 fois leur poids d'eau. On est d'accord, c'est-à-dire 1 gramme absorbe 1000 grammes. c'est dans les matériaux les plus performants qui sont assez coûteux à produire, donc on ne va pas discuter de ça. Par contre, on a des matériaux plus rustiques, j'appellerais plus rustiques, qui sont issus de molécules naturelles, c'est-à-dire de plantes naturelles, avec lesquelles on fait des polymères, qui sont capables de substituer les polymères qu'on obtient aujourd'hui à partir de la pétrochimie, hein, et avec lesquels on va absorber, bon an, mal an, 200 grammes d'eau par gramme. Ces polymères, on les a effectivement utilisés, au jour d'aujourd'hui, c'est les polymères qui sont utilisés pour l'hygiène corporelle, pour les enfants, pour l'incontinence, pour les seniors, pour la cosmétique, pour le rouge à lèvres, pour vous faire de beaux yeux, des choses comme ça. Mais on a eu l'idée, ça peut être utilisé pour d'autres aspects, pour tuer les rats, par exemple, comme rodenticide aussi. Et plus récemment, on s'est dit, mais avec les problèmes de rétention d'eau, de problèmes de manque d'eau dans certains endroits qui vont devenir de plus en plus criants, même en France, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces matériaux dans un premier temps dans les pépinières, pour les plantations, en particulier lorsqu'il y a dans les pépinières comme ailleurs, il peut y avoir des manques d'eau. Et c'est un lieu où on peut faire des essais grandeur nature en mélangeant cette petite poudre à la terre et en faisant des tests sur des plantes en carence d'eau, volontairement, arroser des plantes, ne pas les arroser, mais avec notre matériau, et regarder la pousse des plantes. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait récemment, et le système fonctionne. C'est-à-dire que des plants de... Alors, il s'agissait de plants de vigne, parce que le vin m'intéresse, et que j'ai des relations dans les pépiniéristes, mais peu importe. Donc, ce mélange de matière polymère avec de la terre permet de constater qu'en carence d'eau, lorsqu'on a gonflé ces poudres, la plante continue de pousser. Donc ça peut être intéressant, non seulement pour les pépinières, mais on peut imaginer à l'avenir que dans les endroits où on a besoin de planter des choses et on a besoin de terre qui conserve l'eau, là, ces choses-là peuvent le faire, d'autant que c'est réversible. Vous pouvez mettre de l'eau, mais la matière peut donner de l'eau. Hein ? Donc, elle peut donc contribuer à maintenir un taux d'humidité dans les plantes. Autre application que je vous livre et qu'on est en train de cogiter, puisqu'en France, les problèmes dus à l'eau concernent l'immobilier, les maisons, les sols séchants. Dans les sols argileux, vous avez une rétractation des argiles qui elles-mêmes prennent l'eau, se gonflent et se dégonflent. Et on a des problèmes qui commencent à être sérieux concernant la stabilité des maisons. Donc on est en train de réfléchir, et on n'est pas les premiers, puisque je viens de voir des publications, où en utilisant ces matériaux, au lieu de consolider ce qu'on appelle les semelles de maison par du béton, on pourrait très bien injecter ce type de matière en mélange avec de la terre, et de façon à consolider les semelles, ce qu'on appelle les sous-semelles des maisons. Vous voyez ? Donc c'est une autre application auquel on n'avait pas pensé. Avec quelques kilos de ces matières, on pourrait stabiliser... Et actuellement, on est en train de développer ces actions.
Avec ce que vient de nous dire Joël Barraud, je vais me tourner vers nos porteurs de projets africains, de savoir qu'est-ce que ça leur inspire déjà d'emblée, parce que j'imagine que ça fait émerger des idées dans votre tête. Alors, à la fois pour le chercheur que tu es, Makai, ou pour l'opérateur porteur de projets d'ampleur comme l'expérience des parcelles, comment vous réagissez à cette avancée, même si je sais que vous êtes au courant de ce genre de processus? Là, Joël Barraud porte quelque chose qui est prêt au opérationnel et avec un mot-clé, c'est le souci des coûts. Donc voilà, peut-être une réaction par rapport à ça, ce qui permettrait de voir comment on se projette dans l'avenir.
Je dirais simplement, c'est waouh quoi, c'est génial là, ce que l'équipe de Joël est en train de faire, hein, parce que la valorisation, ou disons l'extension de cette technique-là dans ce que nous faisons au niveau...
Je suis d'accord. Je précise qu'on essaie de trouver, je vous dis, substituer le carbone fossile par du carbone renouvelable. Ouais. On choisit les plantes. Mmh. On choisit des plantes. Il faut choisir des plantes. Il faut choisir les précurseurs moléculaires. Je ne vais pas vous donner les précurseurs parce que c'est actuellement en propriété industrielle. Mmh. Mais on arrive à trouver les plantes. La molécule qui nous intéresse est déjà sur le marché. Mmh. Pour ne rien vous cacher, on peut la trouver à 3 euros le kilo. Je parle de la matière première. Mais elle est chinoise. Et on n'est pas sûr de la pureté de ces matériaux et on ne sait pas comment ils ont été obtenus. ces matériaux. Donc nous, on est en train de s'attacher à la synthèse industrielle. Hein, on est en train de voir avec un pilote industriel transféré, puisque ça, on sait le faire à l'échelle du kilo, sans problème. Les tests ont été faits à grandeur nature. Hein, mais maintenant, on est en développement industriel à partir du naturel, en essayant d'avoir, si possible, un produit le plus écologique et le plus économe possible. C'est-à-dire qu'on fait attention à tous les bilans matières, tous les bilans énergétiques, tous les bilans en eau, de façon à produire une molécule qui va servir à la polymérisation au moindre coût. Mais le problème n'est pas tout à fait là. Le problème est ensuite, on a un procédé derrière qui est quand même un peu plus coûteux et on essaye de produire un produit à un coût raisonnable. Alors après, se posent deux questions selon l'utilisation. Si on va vers la cosmétique, il faut que le produit soit biodégradable. Il l'est dans notre cas. Si on va vers le système agro-étanteur, il ne faut pas qu'il soit biodégradable. Il faut qu'il soit conservé dans le sol de façon à être utilisé constamment. Hein. Mais les deux peuvent être faits. On peut avoir une partie biodégradable et une partie non biodégradable. Hein, c'est important.
Gora, une réaction par rapport au projet de parcelle.
Merci beaucoup. Après, je disais que la gestion de l'eau est au cœur, n'est-ce pas, de la GMV. Moi, lorsqu'on m'a nommé directeur de la Grande Mervette au Sénégal, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je pourrais améliorer? N'est-ce pas? Parce qu'il y a un existant qui est là, des efforts conséquents qui ont été faits par mes prédécesseurs. Donc moi, je dois amener une plus-value quelque part. Dire que... Et la problématique, c'est l'eau. On plante un balanites, peut-être il va pleuvoir une fois ou deux fois. Cette balanites-là doit traverser encore 12 mois, 11 mois, avec beaucoup d'incertitudes. Comment faire pour réduire l'évapotranspiration, la transpiration au niveau des plantes, mais l'évaporation aussi au niveau du sol. Et puis avec ma curiosité, n'est-ce pas, parce que j'ai vu sur le marché, excusez-moi parce que je parle d'un terme commercial, le polytère, donc qui se vendait au Sénégal, je demande le kilo, c'est 15 000, c'est 22 euros le kilo. Je dis que ce coût-là est tellement élevé. 15 000 francs CFA, 22 euros pour un kilo, tout en sachant que moi, j'ai besoin de 10 grammes par plant, vous faites le calcul, donc ça tourne autour de 100 plants. Et moi, à l'hectare, j'ai besoin de 333 plants. Donc, pour faire 333 plants, vous faites le calcul, combien de kilos je dois avoir. Donc, je dis qu'il me faut un polymère, quelqu'un qui fait un polymère, qui va servir d'être un rétenteur d'eau. Et je suis tombé sur une entreprise française qui fait de bons retenteurs d'eau. Après essence, je me dis, non, je peux te vendre le kilo à 3,5 euros, le kilo. Je dis, excellent. Je dis, ok. Au niveau de l'arbitrage budgétaire, au niveau de l'agence, je dis non. Donc l'eau est une problématique majeure. Moi, j'ai trouvé quelque part où je peux avoir un polymère qui peut aider à créer ce qu'on appelle des puits solides. Donc à diminuer l'évaporation, n'est-ce pas, augmenter l'infiltration et retenir l'eau. Un retenteur d'eau, et je dis, attends, comme c'est une opportunité acceptée, je prends 2 tonnes. Et j'ai acheté 2 tonnes de ce produit-là qui s'appelle Aquasorb, que j'ai utilisé de 2022 jusqu'en 2024 au moment de faire la plantation.
Oui.
Et je mettais tout simplement 2 grammes. Si tu prends les 2 grammes, tu mets 1,5 litre d'eau pour créer un gel. Et le gel-là, on met ça dans le trou pour créer ce puits solide-là, donc pour limiter une bonne part de l'infiltration, que l'eau va rester pour que les racines des plants puissent en... Et honnêtement, j'ai eu de bons résultats. Moi, j'ai eu de bons résultats. Mais avec 3,5 euros, sans compter le fret. Parce que si je mets le fret, je crois bien que cela me revient au Sénégal à 5 euros le kilogramme. Et que j'avais trouvé très, très, très intéressant. Mais le malheur, c'est fastidieux. Fastidieux quelque part parce que ça augmente la durée de travail sur terre, la plantation. Oui. Et ce qui fait que donc, moi, je sais bien qu'étant présent, les sources, n'est-ce pas, même si il y a un programme de renforcement de capacité des chefs de base qui s'occupent de la plantation, Mais tu commences tôt, à midi, tu es à 45 degrés sous le soleil. 48 degrés, peut-être, ce qui a fait que dans certaines parcelles, je n'ai pas eu de bons résultats. Mais je peux confirmer ici, les parcelles auxquelles j'ai participé directement, avec même des vidéos que je peux partager avec vous, hein, et des photos, on a bien amélioré le taux de réussite de plantation. Oui. Mais ça va impacter forcément sur le coût de revient de nos plantations.
Oui, oui. Oui. Merci de confirmer.
Mais on le fait une seule fois.
Oui.
Donc c'est ça qui est l'avantage. On le fait une seule fois. Après, ça tient pour longtemps.
Là aussi, exactement. Quoi. Parce que on a fait un test. Un test d'abord en pépinière. Mmh. Où on a planté sans le rétenteur d'eau. On a planté avec le rétenteur d'eau qui peut retenir 10 fois le volume. Mmh. Mais il faut de temps en temps un apport d'eau arrosé.
Mmh. Ah oui, oui.
Ouais.
Oui.
Il faut arroser.
Pour recharger.
Parce que nous, on avait le témoin, sans truc. Mais les trois, j'avais dit ici, mettez tous les 10 jours, n'est-ce pas, 5 litres d'eau.
Ah oui, non mais.
Ici, tous les 20 jours, 5 litres d'eau, parce que je voulais connaître un peu le taux de flétrissement. Pendant combien de temps on pouvait rester, mm-hmm, sans pour autant mettre un apport,
oui, bien sûr,
un apport d'eau. Et j'ai vu que là où j'ai planté, sans aucun bruit, tout est mort.
Ah oui, d'accord.
N'est-ce pas?
Il faut un minimum, oui.
Donc, et finalement, moi, la conclusion que j'avais retenue, c'est qu'il faut arroser au moins 2 fois par mois. Il faut, tous les 15 jours, faire un apport, oui, en eau, quelle que soit la quantité. Fait, au moins, ça va booster un peu le plant. Oui, et oui, on sait pertinemment, au sel, si la plante traverse les 2 premières années, elle est sauvée. Mm-hmm. S'il n'y a pas la dent de bétail qui passe,
tout à fait.
S'il n'y a pas un fou de brousse, n'est-ce pas? Mais on laisse comme ça. Il n'y a pas de pâturage. Le bétail qui vient manger la plante, s'il n'y a pas un feu de brousse, si on traverse 2 ans après la plantation, ce plant-là, ouais, est sauvé.
Non, mais là, vous avez raison, il ne faut pas oublier qu'il faut l'arroser. Mais ça permet de moins arroser, de ne pas arroser aussi fréquemment.
Tout à fait.
Hein, c'est déjà important. Et ça permet, au niveau, quand on fait des plantations, de favoriser le taux de réussite. Hein, nous, on n'a pas le temps que le vérifier. On est en train de le faire pour des plantes spécifiques, mais ça fonctionne.
Je crois que c'est une belle innovation.
J'en avais donné aux jeunes de la caravane des jeunes de la Grande Mer Verte. Parce qu'il y avait 2 jeunes par pays, donc ils étaient au nombre de 21. J'avais donné à chaque jeune un échantillon. Mmh. Et je lui demandais d'arriver dans votre pays. Donc ça veut dire que j'ai fait traverser ce produit-là dans les 11 pays de la GMV, hein, de Dakar à Djibouti. Hein. Et je crois bien que même l'année passée, ça je l'ai fait en 2022, en 2024, j'ai vu même une Tchadienne. Ma vidéo là, quoi, qui partageait la vidéo, quoi, elle est devenue virtuelle, où je leur montrais comment utiliser ça et les résultats aussi qu'ils ont obtenus. Mais ça augmente le coût de la restauration.
Ça, mais quand même, ça augmente un peu le coût. Oui. Mais après, il faut faire le bilan global.
Voilà, pour voir. Voilà. Si on devait arroser simplement avec la méthode classique, ouais, ou si on doit utiliser les polymères, quel est le bilan,
ouais. Le bilan global avec le taux de réussite. Parce que juste comme vous l'avez dit, si vous avez un taux de réussite de 80% au lieu de 30%, ça évite de faire des plantations.
Et là, peut-être c'est un autre débat. Hein. Moi, je veux qu'on soit très prudent sur les taux de réussite. Parce que nous, qu'est-ce, oui, qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est d'aller vers une neutralité des terres. Hmm? On sait bien que l'une des causes de la dégradation des terres, c'est l'érosion hydrique. Mmh. En plantant, on diminue, oui, le ruissellement et on bonifie l'infiltration de l'eau. Mmh. Mmh. Et il est avéré, ce que je dis, ce n'est pas moi, mais c'est les travaux de la recherche, les résultats de la recherche, qui se disent que quand on arrive à avoir 25 plants bien répartis à l'hectare, on impacte positivement l'infiltration. 25 plants à l'hectare. Je dis que nous, on plante 5 sur 10, on a 333 plants. Donc, aujourd'hui, avec 333 plants, pour avoir 25 plants à l'hectare, on a un taux de réussite de 7%, de 7,5%. Certains disent que oui, la grande mer verte, oui, le taux de réussite, c'est moins de 15%. Mais attends, on doit applaudir si on a 15%. Mmh.
on doit applaudir. Dans quel contexte on a planté? Quelle est la problématique de l'eau? Aujourd'hui, si on a 15%, donc on a combien de plants à l'hectare et qui va impacter positivement l'infiltration? Donc, pour impacter positivement, par exemple, sur la dégradation des sols.
Ça veut dire, Gora et Makaï, qu'il faut passer à un accord de discussion avec notre ami Joël Barraud et celles et ceux qui sont autour de ça, pour aller plus loin dans l'expérimentation et le suivi scientifique et technique de tout ça, en fait, pour pouvoir améliorer tout ça. Et effectivement, le taux que tu viens d'indiquer, pour moi, c'est central pour pouvoir motiver les gens. Donc, moi, je crois qu'il y a une discussion à engager là, dans les temps qui viennent et que nous, on peut essayer de porter à travers justement les besoins. Et ce ne sont pas que des besoins financiers. Je pense que ce que tu as dit tout à l'heure sur la capacité des acteurs de terrain, c'est hyper important. Oui. Et la motivation et la gratification des gestes va devenir principale là-dedans.
Mais Gora a raison, c'est l'initiation est importante. Après, vos terres sont déjà plus aptes à l'agriculture, mais il faut commencer quelque part. Nous, on n'a pas la prétention de révolutionner toute la... Mais il faut une étape initiale pour lancer... Bon, chez vous, au Sénégal, ça fonctionne, mais j'ai compris que dans tous les pays de la Grande Muraille Verte, ça ne fonctionnait pas encore. Donc, il y a encore de l'initiation à faire. C'est notre boulot, il est... Dans ce domaine-là, il est là. Dans d'autres domaines, c'est une autre affaire.
Merci pour cet échange plein de perspectives. C'est la fin de notre podcast. Merci à nos invités et merci à vous de votre écoute. Retrouvez toute l'actualité de l'Institut Balanites et d'autres podcasts sur le site institutbalanites.org.